écoutez Liberté sur Parole sur Cause Commune 93.1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. J'ai maintenant le grand plaisir d'accueillir Antonio Delfini. Bonjour.
Bonjour.
Avec Julien Talpin, vous venez de commettre ce livre aux éditions textuelles « L'État contre les associations, anatomie d'un tournant autoritaire ». Un livre salutaire qui met des mots sur ce que beaucoup d'associations vivent sans forcément l'analyser en tant que tel, mais c'est vrai que depuis, ça s'accélère, la mise au pas des associations prend différentes formes que vous analysez dans ce livre et vous nous montrez en quoi les libertés associatives sont menacées. On a beaucoup entendu parler des dissolutions administratives, alors sans que ça passe par la justice, ça se fait en conseil des ministres, comme ça, après une petite attaque de drones humains d'extrême droite sur les réseaux sociaux, eh bien, les politiques s'en saisissent pour couper des subventions d'abord, en général, pour dénoncer ensuite et pour dissoudre éventuellement. Je pense aux amis de Palestine vaincra, notamment, qui juste dénoncent la colonisation, le génocide, enfin que des trucs qui sont maintenant avérés, mais qui pour cela ont été accusés de causer des troubles à l'ordre public notamment, et puis surtout peut-être de ne pas avoir signé quelque chose dont on va parler parce que c'est assez central, du fameux contrat d'engagement républicain, ce contrat que les associations, toutes, sont obligées de signer pour pouvoir prétendre à déposer des dossiers de subvention. Ça ne veut pas dire prétendre à des subventions, mais de pouvoir déjà les demander. Donc voilà, vous décortiquez un petit peu tout ça. Alors, pour dire qui vous êtes, Antonio Delfini, vous êtes chargé de recherche à l'Observatoire des libertés associatives, qui fait le gros boulot depuis des années sur ces questions et qui a commencé à alerter depuis vraiment, 4-5 ans déjà, à peu près.
Oui, c'est ça, 2019 en gros.
Voilà, ouais, qui commence vraiment à alerter sur ces questions et à faire de la recherche, et notamment avec Julien Talpin qui a aussi travaillé avec eux. Et puis, vous êtes aussi chercheur associé à l'Université de Lille, au CERAPS, et vous travaillez notamment sur le rôle démocratique des associations. Et puis, vous avez copublié ce livre « Démobiliser les quartiers, enquête sur les pratiques du gouvernement en milieu populaire ». C'était en 2021. Voilà, alors, tout d'abord, vous parlez de l'état d'urgence qui a été décrété en 2015. En quoi est-ce que le monde associatif a été directement impacté par cet état d'urgence? Comme ça, on ne fait pas forcément le lien, mais en quoi ces deux événements, cet état d'urgence a été le déclencheur vraiment d'un changement de regard sur les associations?
Ouais, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, donc ce livre, c'est le fruit d'un travail qu'on a mené au sein de l'Observatoire des libertés associatives. Donc moi et Julien Talpin, mais aussi beaucoup d'autres personnes, des chercheurs, des associations qui s'étaient impliquées dès 2019 en fait, en faisant ce constat-là que vous venez de dénoncer, qui est qu'il y a une tension en fait dans les relations entre État et associations, que ça devient de plus en plus dur. On en parlera peut-être, mais ça s'est intensifié considérablement avec la loi séparatisme en 2021. Mais donc la loi séparatisme est un accélérateur de ça, mais effectivement à partir de 2015 on identifie cette année-là comme étant une année qui est un peu charnière en fait dans cette question des relations asso-État, notamment parce que c'est l'année des attentats, et que à la suite des attentats en réalité il va y avoir beaucoup de mesures qui vont être prises, dans un premier temps sécuritaires qui concernent le domaine de la justice et de la police, du droit de manifester. Donc effectivement l'état d'urgence va être immédiatement utilisé contre des associations écologistes qui manifestaient à l'époque, et puis cette succession de lois en fait va faire entrer un état d'exception dans la norme
et les lois scélérates
exactement, et donc après donc on fait l'énumération dans un encadré dans la première partie du bouquin, après un ensemble de lois, une dizaine, une quinzaine qui vont vont succéder à ces attentats-là, va être mis en place la loi séparatisme, donc justement, qui est une loi qui vient impacter des secteurs qui a priori sont pas trop concernés par l'antiterrorisme, l'éducation, les associations, donc. Et donc là, on a une extension en fait de la logique de l'antiterrorisme à des secteurs qui sont très éloignés de ça. Et donc c'est cette loi qui effectivement va étendre les motifs de dissolution des associations, va créer le contrat d'engagement républicain, donc effectivement qui permet de retirer ou de ne pas donner de subventions à des associations qu'on pourrait juger.
Alors c'est quoi ce contrat d'engagement républicain? Il faut peut-être développer un peu. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de contrat, et quels sont les articles qui sont les plus problématiques? La question des valeurs de la République, etc., qui peuvent priver une association de légitimité.
Ah, bien sûr, donc ce contrat d'engagement républicain qui n'a de contrat que le nom, vu qu'il est uniquement signé par les associations et pas par l'État, c'est-à-dire il n'y a pas d'engagement réciproque qui sont donnés, et donc il subordonne le versement des subventions au respect de 7 engagements. Qui sont en réalité, quand on les voit de prime abord, des engagements assez consensuels. Il faut respecter la loi, il faut pas troubler l'ordre public. Alors, il y a des engagements, le dernier notamment, qui est un peu plus, il faut respecter le drapeau, l'hymne national, la figure de Marianne, dont là on voit, donc c'est des engagements qui sont pas encore utilisés dans les faits, mais dont on voit qu'il y a un potentiel un peu dangereux
à devoir mettre en place. Mais qui est respecté, ça veut dire quoi?
Et donc voilà, tout ce qu'il y a autour du contrat d'engagement, c'est que c'est quelque chose de très flou. Donc ça a
été... Parce que ne pas enfreindre la loi, je vois ce que c'est. Ne pas troubler l'ordre public, c'est assez cadré. Mais respecter Marianne...
C'est ça. Et encore, l'ordre public, en fait, on peut avoir une définition assez large.
On l'a vu pour les étrangers en ce moment. Oui.
Exactement. Et donc là, on voit que c'est un spectre en réalité assez large, que ce contrat d'engagement républicain, il a été justifié pour lutter. Alors, dans les débats parlementaires, c'est quelque chose qu'on a repris l'ensemble des débats parlementaires de l'époque pour attaquer les associations dites communautaristes, islamistes, terroristes, et dont on voit que dans les réalités, depuis qu'il est mis en place depuis 2022, il a concerné des associations féministes, écologistes, de droit au logement. Et donc, c'est ces associations-là qui sont visées, en fait, par ce contrat d'engagement républicain, qui est utilisé, dont tout le flou qui l'entoure dans ses engagements est utilisé à plein, en fait, par les élus. Et donc, ça vient construire une pierre de plus dans les dispositifs qu'on a pour venir contraindre les associations, attaquer les associations quand on considère qu'elles ont pris des positions qui déplaisent aux institutions en place, ou qu'elles ont mis en place des actions, des manifestations avec lesquelles on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on peut et retirer les subventions et mobiliser le contrat d'engagement républicain.
Oui, on verra que c'est plus compliqué que ça, parce que dans votre livre, vous montrez aussi l'ambiguïté, parce que ça oblige un peu à justifier, et parfois on est obligé de justifier l'injustifiable. Mais le problème, c'est quand ça échappe à la justice, justement. Vous donnez plusieurs exemples, notamment vous commencez ce livre par faire une étude de cas sur l'asti du petit Kiwi, sanctionné pour avoir dénoncé des violences policières.
Ouais, alors ça c'est un cas, pour nous c'est un peu un cas d'école, c'est-à-dire que c'est une association de quartier implantée dans un quartier populaire qui met en place des ateliers d'accompagnement administratif pour les droits des femmes, des choses pour les enfants, qui a vraiment un ancrage très fort dans ce quartier-là depuis des dizaines d'années. Et en fait, l'association va écrire un texte à la suite du meurtre de Naël Merzouk
à Nanterre.
Voilà, un texte qui se positionne de manière claire en fait, en disant là ça ne va plus, les relations police-jeunes ne vont pas comme ça, et il faut la justice, et il faut avant tout la justice. Et en fait, ce texte qui va être écrit par l'association, avec un appel à manifestation qui est rejoint à l'époque par tous les partis de gauche.
Marche blanche, hein, pas un appel à aller...
Exactement, il y a tous les syndicats, il y a Sud, il y a l'NPA, il y a tout le monde appelle à ce rassemblement-là. Ça va leur être reproché par la préfecture de manière très directe, en disant en faisant cet appel, en écrivant ce texte, vous avez enfreint le contrat d'engagement républicain. Et donc là, on voit bien l'utilisation extensive qui peut être faite de ce contrat-là et qui soit en fait un outil pour venir mettre au pas en fait le monde associatif, l'empêcher d'avoir une liberté d'expression, de pouvoir s'engager en disant, avec toute la logique qu'il y a derrière, c'est à partir du moment où vous touchez des subventions publiques, vous n'avez pas à critiquer les politiques qui sont mises en place par l'État. Et donc, c'est toute cette logique de « on ne mord pas la main qui nourrit », et une phrase parfois entendue explicitement, en fait, sur le terrain par les associations, qui, selon nous, est dévastatrice parce qu'elle participe à dépolitiser le monde associatif, à en faire des structures sur qui on externalise le rôle de l'État.
Voilà. Des opérateurs, mais c'est plus des associations, c'est des opérateurs.
Exactement, de la délégation de services publics. Donc, vous faites le travail que l'État ne fait plus parce que ça lui coûte beaucoup moins cher de le faire faire par les associations que de le faire faire en propre. Donc, on délègue sur vous ce rôle-là. Et à côté, vous devez remplir le devoir de réserve, la neutralité qui est dévolue aux fonctionnaires habituellement. Donc, on vient étouffer le monde associatif, tout son rôle démocratique, de contre-pouvoir, de lanceur d'alerte aussi, quand les associations se rendent compte sur le terrain que ça tient plus. Et je reprends ce mot-là parce que c'est aussi le slogan d'un appel à rassemblement national du 11 octobre en disant ça tient plus, parce que ça ne peut. Les financements sont en baisse drastique, les associations sur le terrain sont complètement étouffées, et dès que elles disent on n'en peut plus et là il faut prendre d'autres positions, et ben là on les écrase, quoi. Donc voilà, c'est le constat un peu de ce livre là les assos sont pris en étau entre une marchandisation d'un côté, des appels à projets qui les mettent en concurrence, et de l'autre côté la matraque du contrat d'engagement républicain, voire de la dissolution si jamais il y a une parole qui est dite de manière trop forte et trop virulente, quoi.
Vous avez résumé tout le bouquin. On va y revenir point par point. Mais effectivement, je crois que c'est un peu la grenouille dans l'eau tiède. Parce qu'on s'est pas méfié. On s'est pas méfié des appels à projets. Je vais vous donner un exemple qui est, voilà, les radios associatives. Avant, on avait uniquement des subventions de fonctionnement. Voilà, le fonds d'expression fonds de soutien à l'expression radiophonique qui ne cesse d'être raboté, qui existe encore un peu. Bon, ben voilà, on nous donnait de l'argent pour faire de la radio. Et puis, notre boulot en tant que bénévole, c'était de faire de la radio, éventuellement en ayant un salarié ou deux qui faisait de la technique ou qui faisait... voilà. Et ben, de plus en plus, on a eu des appels à projets. C'est-à-dire qu'il fallait faire des programmes pour répondre aux... Enfin, je prends cet exemple, mais c'est absolument transférable à tous les secteurs. Je ne veux pas accaparer le truc. Hein. Il fallait, voilà, faire la pub de la mairie qui allait nous subventionner, ou du conseil régional, ou du conseil départemental, ou de quelle était telle et telle action gouvernementale. Donc, avec de plus en plus de technicité aussi qui était demandée, c'est-à-dire il fallait remplir l'appel à projet, faire les programmes en prenant du temps. Donc, du coup, pour des programme qui n'était pas en propre, c'est-à-dire qu'on faisait la communication pour obtenir donc de l'argent. Ensuite, il fallait faire le bilan, renvoyer tout ça. C'est de plus en plus compliqué aussi. C'était chronophage. Limite, il aurait fallu avoir un ingénieur, un salarié dédié à ça. Mais ça, encore une fois, c'est transférable à toutes les associations, y compris ceux qui font de l'éducation populaire, etc. Et puis, alors ça, c'est pas le cas des radios, mais pour beaucoup, on transforme ça ne devient plus, on n'a plus que du financement pour faire une mission comme vous disiez, de service public, voire de contrôle public. Je pense à les associations qui font du tri des jeunes étrangers qui arrivent entre les mineurs et les pas mineurs. C'est des associations qui font ça et qui font ça à moindre coût, mise en concurrence avec d'autres pour faire cette mission qui est quand même celle de l'État, parce que c'est presque un rôle de police en fait. Et donc ça c'est un exemple extrême, mais c'est de plus en plus ça. Et donc on se retrouve avec des associations qui sont des purs opérateurs et qui ont le droit juste de la fermer. Les associations comme la CIMAD qui vont dans les centres de rétention, elles sont menacées, elles ont été attaquées en déloyauté parce qu'elles dénonçaient ce qui se passait dans des lieux d'enfermement insuffisamment contrôlés et où les droits humains et la loi n'étaient absolument pas respectés. La LDH, la Ligue des droits de l'homme été attaqué. Enfin voilà, on en est vraiment à un point où on a changé de paradigme et en fait sans vraiment s'en rendre compte. C'est-à-dire que voilà, les financements ont évolué et en fait par cette laisse financière, on a réussi en fait à museler. Enfin, la laisse est devenue muselière en fait. C'est ce que vous racontez aussi dans le livre, mais il y a cet aspect du financement qui a fait que, voilà, on avait juste changé les procédures, et puis finalement, on a changé complètement le rôle démocratique et de contre-pouvoir qu'avaient les associations.
Nous, c'est vraiment ça, quoi. Le sous-titre du bouquin, c'est Anatomie d'un tournant autoritaire. Je pense qu'on est entré, effectivement, mais alors à ça, à plein de niveaux, parce qu'on voit que les contre-pouvoirs sont attaqués un peu, les médias sont attaqués assez directement, avec des concentrations par des grands groupes capitalistes. Les syndicats sont attaqués. On voit que tous les contre-pouvoirs, un à un, sont attaqués, et qu'en face, on a une hyper-présidentialisation, on a le 49 3, on a la dissolution. Donc c'est un peu l'objectif de ce livre, c'est un peu aussi de montrer la déclinaison de ce qui se passe depuis 10 ans là dans le monde associatif, bien que ça se passe aussi dans d'autres secteurs. Le cas de la CIMADE est assez intéressant là-dessus parce que il y a des débats parlementaires qui sont en cours actuellement où effectivement on leur reproche de ne pas être assez neutre. Et on voit monter en fait ce mot d'ordre de la neutralité, on le voit monter un peu partout.
Enfin, neutre, ça veut dire complice en l'occurrence.
Voilà, c'est ça. Et donc avec des accusations derrière d'être complice, de passeur, d'être complice.
Là en l'occurrence, on leur demande une neutralité qui serait une allégeance à la politique de l'État.
Exactement. Là, donc là, c'est de dire, c'est par rapport à la présence dans les centres de rétention administrative notamment. Et donc là, toutes les discussions parlementaires, elles sont assez aberrantes.
Voilà, c'est-à-dire qu'on veut leur enlever cette mission de plaidoyer que la MCIMAD, parmi les associations qui ont été. Qui ont remporté cet appel à projet, enfin voilà, qui se sont quand même mises d'accord pour pouvoir y aller ensemble, alors qu'on voulait en fait retirer la CIMADE, hein, il y a déjà une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, des centres de rétention. Ils ont quand même, enfin voilà, ils ont gardé une mission de plaidoyer qu'ils remplissent, et ça, on veut leur enlever.
Exactement. Et donc voilà, sur la LDH, la Ligue des droits de l'homme, c'est la même chose. C'est-à-dire, nous, on a beaucoup vu, alors il y a beaucoup de petits récits, de petites associations locales, en fait, dans le livre, et ça, c'était assez important pour nous. De montrer aussi qu'il y a une réalité très territoriale, locale, en fait, où les petites associations de quartier ou rurales sont aussi directement impactées par ces dynamiques-là. Et en fait, mis bout à bout, on se rend compte qu'il y a effectivement un changement de modèle et qu'on a des élus qui ne réfléchissent plus les associations comme ayant une autonomie, ayant une indépendance, mais comme des délégataires.
Groupes, comme le groupe SOS, par exemple, puisqu'on parle du milieu rural, qui truste tous les appels à projets, toutes les subventions et prive totalement de moyens une des petites associations. Puis il n'y a plus qu'à avoir une petite opération de délation et de bashing pour les faire tomber, en fait. Ouais,
exactement. Et sur cette question de la neutralité, par exemple, on a vu, nous, monter après les élections législatives de 2024, là, après la dissolution, en fait, beaucoup de cas qui nous sont venus associations qui se faisaient reprocher leur absence de neutralité parce qu'elles avaient pris parti au moment de la campagne en disant contre l'extrême droite, et là on leur reprochait ça de manière très forte. Et donc vraiment on a ce rouleau compresseur de la neutralité qui arrive, et pour nous c'est important de dire en fait quand il y a des attaques contre des associations, c'est pas uniquement les associations attaquées qui sont concernées, c'est que il y a un message qui est envoyé à tout le tissu associatif local ou sectoriel, si c'est la culture ou si c'est le social ou l'immigration, en disant on peut être attaqué si on prend ces positions-là. Et donc ça, c'est un message qui est envoyé et qui peut être assez dévastateur. On en parlera peut-être notamment sur les questions d'autocensure. Dernière chose que je voulais dire aussi, c'est on s'est rendu compte à ce moment-là un petit peu, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers nous au sein de l'Observatoire des libertés associatives en se disant mais si ces outils-là dont on vient de parler là, le contrat d'engagement républicain, les mesures de dissolution, tombent dans les mains du Rassemblement national.
C'est ça.
Et là, je veux dire, effectivement, aujourd'hui, on en est à un point où le RN n'aurait même pas à faire passer de nouvelles lois pour mettre au pas le monde associatif, vu que les outils sont déjà présents et sont déjà en place. Et donc là, l'été dernier, il y a eu effectivement un peu une prise de conscience un peu que déjà ces outils-là sont utilisés, mais s'ils étaient utilisés par un pouvoir qui aurait encore plus de latitude sur son aspect autoritaire, ça pourrait être vraiment très très grave et très important, quoi.
Oui, parce qu'on constate, il faut quand même pas se mentir, dans tous les exemples que vous donnez, c'est des associations de quartiers populaires avec un public musulman ou de culture musulmane ou perçu comme un. Et il y a quand même une forte islamophobie qui se traduit dans ces menaces de dissolution, dans ces attaques et parfois dans ces dissolutions sous couvert d'une instrumentalisation de la notion de laïcité.
Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est vraiment très récurrent. Ça revient. On joue en fait sur toutes les difficultés à comprendre quand est-ce que l'association doit être neutre, remplit les obligations que doivent remplir, par exemple, une association si elle effectue une mission de service public. Oui, là, dans le cadre de cette mission-là, elle doit respecter certaines règles. Mais a priori, la structure en elle-même a toute liberté de pouvoir dire tout ce qu'elle veut et de pouvoir avoir toutes les... Et donc, on joue sur ce flou, ces connaissances qui sont un peu difficiles, des connaissances de droit aujourd'hui, pour mettre la pression effectivement sur...
Oui, et on a pu parler d'une association qui organisait un petit pot, enfin un truc de rupture du jeûne, quoi, au moment du Ramadan. Enfin, je veux dire, ça a été reproché. On reproche pas les colis de Noël à une association catho. Enfin, qui vit dans un pays de culture chrétienne, et ben maintenant on peut aussi imaginer. Enfin, c'est des choses aussi anodines que ça ont pu être taxées de communautaristes, de séparatistes, etc. Et du coup, hop, on instrumentalise le contrat d'engagement républicain, on fait pression sur les réseaux sociaux. Il y a aussi cette tactique qu'il faut analyser aussi. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont permis des sortes de raids d'extrême droite qui sont prises comme l'opinion publique pour des gens qui veulent se faire élire ou qui le sont déjà et qui, du coup, amènent à des décisions politiques dramatiques.
Exactement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la pression à la répression, et qu'on met en avant dans l'ouvrage. C'est dire, justement, ces cas de répression, en fait, sont pas toujours à deux acteurs, un acteur réprimé et puis un acteur répressif. En fait, ça se joue des fois un peu à trois. C'est-à-dire que il y a effectivement les médias, les réseaux sociaux qui mettent une pression sur l'institution pour l'obliger à prendre des décisions vis-à-vis d'une structure. Et donc là, on voit qu'il y a effectivement des décisions qui sont prises, de coupures de subventions, de disqualification des militants, ou même d'attaques en justice, des fois, qui sont pris un peu à la hâte, parce qu'il faut faire quelque chose, parce que l'institution doit répliquer. Donc ça, le climat un peu islamophobe et raciste très présent aujourd'hui pèse considérablement, en fait, sur les décisions qui sont prises et les associations. Et puis, donc, il y a effectivement tout ce côté islamophobie, et puis il y a aussi un autre côté au niveau national qui est toutes les questions écologiques.
Ah oui, oui,
et donc
sûr.
Là, il y a aussi vraiment quelque chose, donc, à la suite des méga-bassines, de la manifestation qu'il y avait eu à Sainte-Soline.
En gros, tout ce qui peut gêner l'agro-industrie, quoi. L'agro-industrie, et puis tout ce qui... Voilà.
Exactement. Et donc là, c'est vraiment un sujet qui est apparu sur le devant de la scène au niveau national, et dont là on a pu saisir au niveau local des attaques très ciblées par rapport à des associations qui ont soutenu donc là il y a moins d'une semaine, il y a la compagnie de théâtre Arlette Moreau, qui était une compagnie de Poitiers, qui avait fait un spectacle autour de cette question de la gestion de l'eau, justement, et qui tournait un peu en ridicule le préfet local. Contrat d'engagement républicain. Ils sont passés devant le tribunal administratif de Bordeaux, là, il y a une semaine. On attend de le délibérer. Voilà, on espère qu'ils vont gagner. On leur donne de la force pour ça. Mais là, voilà, c'était quelque... Donc, ça attaquait en plus, là, la liberté de création, donc d'une association, d'une compagnie de théâtre, et sur les questions écologistes. Et donc, ça, on voit... Islam, écologie au niveau national, ça revient vraiment de manière très importante.
Et puis avec aussi tout ce qui était beaucoup d'associations ont été attaquées pour avoir mené des actions dites de désobéissance civile. En l'occurrence, ça pouvait être des ateliers où on apprend à se solidariser et avoir le moins mal possible en manifestation quand on se fait charger par les flics. C'était ça, en fait.
Ouais, exactement. Et donc ça, c'est Alternativa Poitiers, justement.
Ouais, voilà.
Donc, qui a été le premier cas un peu de mobilisation du contrat d'engagement républicain, qui a gagné en justice, l'association a gagné en justice. Et donc là, en plus, c'était même pas des actions de désobéissance civile, mais une formation à la désobéissance civile. Voilà, un atelier de formation à la désobéissance civile, et où le préfet a maintenu que voilà, c'était un trouble à l'ordre public et que ça pouvait pas être mis en place. Donc l'association a finalement gagné, soutenue là par la maire de Poitiers,
qui
présidente
est écologiste
de la métropole. Et donc Donc ça c'est aussi très important. Nous, c'est un travail qu'on essaye de mener avec l'Observatoire aussi, de pouvoir avancer au niveau local, notamment avec des collectivités territoriales qui seraient un peu attentives un peu à cette question des libertés associatives, pour essayer de mettre en place des outils pour avoir une meilleure accueil en fait des associations et de ne pas être répressif. Mais donc là, effectivement, c'est la désobéissance civile qui est directement attaquée via le CER. Ouais.
Voilà. Mais là, en fait, c'est pas simplement le secteur associatif, c'est la démocratie hein, qui est en jeu. Parce que si on interdit aux associations d'exprimer des idées, de faire certaines actions, etc., c'est cette possibilité même. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. C'est très très grave en fait. Et on a parlé de ce qui pouvait se faire avec le pseudo non-respect du contrat d'engagement républicain, mais parlons un peu quand même de ces dissolutions assez médiatisées qui ont été faites de manière totalement arbitraire sans passer par la justice. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas eu un tribunal, il n'y a pas eu un juge, c'est directement l'exécutif en Conseil des ministres qui a pu dissoudre plusieurs associations.
Ouais, là-dessus, c'est important de bien réfléchir le fait que, en fait, ces deux mesures, la dissolution et les contrats d'engagement républicain, ont été pensées comme des mesures complémentaires. Et en fait, ils ont été pensés par les mêmes bureaux, les mêmes services au sein de l'État dans la mise en place de. Et donc, on se disait, on va étendre les mesures de dissolution pour les associations qui ont sur lesquelles on a assez de d'informations, ou en tout cas, on considère avoir assez d'informations pour pouvoir les dissoudre. Et si on n'en a pas assez, si la mesure de dissolution est clairement disproportionnée en fait par rapport à la manière dont on veut attaquer l'association, là on crée le contrat d'engagement républicain. Donc ça a vraiment été pensé d'un même élan en fait, ces deux outils là et ça c'est important de le rappeler. Après la dissolution, effectivement, là aujourd'hui on est dans un moment qui est assez incroyable à l'échelle de l'histoire, c'est-à-dire que cette mesure là elle est créée en 1936 au moment où on combat les ligues fascistes qui descendent dans la rue en France. Elle va être utilisé en fait de manière assez ponctuel en réalité pendant tout le XXe siècle, à des moments de l'histoire, la libération, mai 68. Aujourd'hui, là, depuis 2019, on a un nombre, je crois que c'est, on doit être autour d'une cinquantaine maintenant de dissolutions depuis 2019. Et donc, on est sur plus d'un quart en fait de toutes les mesures qui ont été prises depuis 1936. Donc, c'est énorme. Et puis surtout, donc voilà, en termes de nombre, en fait, on est dans vraiment une utilisation extensive un peu du dispositif. Et puis surtout, là où avant c'était donc utilisé avec parcimonie à des moments un peu charnières de l'histoire de France, aujourd'hui c'est 5-6 dissolutions par an. Donc c'est passé d'un outil d'exception à une mesure en réalité routinière du fonctionnement entre l'État et les associations. Et donc ça, ce changement en fait de statut de la mesure, elle inquiète beaucoup.
Et c'est aussi un changement d'association qu'on dissout. Il y a toujours une ou deux associations de fachos, en fait, d'extrême droite, mais il y a aussi le CCIF, les soulèvements de la terre, notamment, pour les plus connus, avec cette notion de trouble à l'ordre public et de terrorisme. Bien sûr, on n'a pas encore parlé de terrorisme, dites donc.
Ben non, mais c'est ça, c'est que effectivement il y a des associations d'extrême droite qui sont dissoutes, mais il y a de plus en plus
et qui se reconstituent discrètement sans qu'il se passe rien.
Et en réalité, c'est ça qu'on montre aussi, c'est que les conséquences des dissolutions en fait sur les associations d'extrême droite qui ont de toute façon une activité qui est un peu à la marge de la légalité, souvent assez violente. En fait, les conséquences sont moindres sur ces associations là qui se reconstituent, qui retrouvent des réseaux, des lieux dans lesquels être, que sur des associations d'extrême gauche ou par exemple antiracistes, où là on mobilise énormément le droit, on construit une posture associative et la dissolution là, par exemple pour le CCIF, fait beaucoup plus mal. Là en plus il y a des suites qui sont données à cette dissolution, c'est-à-dire qu'il y a eu des perquisitions qui ont été menées au domicile des membres du CCIF. Il y a une nouvelle procédure qui se met en place et donc clairement il y a des...
Alors que très clairement, enfin, je veux dire, on parle peut-être d'idées qui ne plaisent pas, mais c'est le CCIF ni ses membres n'ont commis aucun délit.
Bien sûr. Là, c'est.
On est d'accord, précisons-le quand même.
Et ça caractérise vraiment ça. C'est-à-dire que l'outil de dissolution, là où il était utilisé contre la répression, contre la violence, aujourd'hui, ça devient une police des opinions. C'est-à-dire que énormément d'associations qui sont dissoutes ces dernières années, en fait, ont été dissoutes par des propos. par des discours et non plus par des actions violentes qui ont pu être menées. Donc ça aussi, c'est un glissement. Et notamment, le CCIF, il a été dissous sur la base d'une dénonciation d'une islamophobie d'État. La coordination contre le racisme et l'islamophobie, j'ai plus les termes précis en tête, mais ce qui lui était reproché notamment, c'était une phrase du genre « L'association dit que une partie du monde politique et des médias est islamophobe et tape de manière considéré sur, donc c'est pas ça la formulation, mais c'était ça.
Voilà, enfin, les gens qui ont jugé ça n'ont jamais allumé ces news, c'est sûr.
Et c'est ça, c'est qu'il suffit d'allumer la télévision en fait pour voir que en fait c'est ça qui se passe aujourd'hui, quoi. Donc ça passe d'une répression de la violence à une police du discours et ça vient frapper des discours qui en grande partie sont quasiment des discours.
Voilà, et c'est vrai que je me suis posé la question parce que je me souvenais d'un livre d'Hassan Belmessous qui parlait justement du Front National. Et en fait, il disait le Front National hors la loi. Parce que le Front National, il y a eu un jugement d'ailleurs, il y a quelques mois, c'était en 2024, sur les fameux livrets des élus qui prônaient la préférence nationale. Ce qui n'est pas dans la loi. À ce compte-là, on aurait pu dissoudre le Front National, en fait,
mais
carrément.
C'est ça. Et c'est pour ça que là, sur les dissolutions, pour nous, justement, la dissolution du CCIF a été un peu un point de bascule. Parce que, en réalité, là où... Donc, mise en place de la dissolution. Après, l'association vient contester cette dissolution. Et c'est le Conseil d'État qui tranche in fine de la mise en place de cette procédure-là. Et là, en réalité, la justification du Conseil d'État... est tout sauf judiciaire, juridique. Elle est clairement politique.
Ouais.
C'est dans le contexte de l'assassinat de Samuel Paty et donc Gérald Darmanin dit immédiatement après le CCIF a joué un rôle dans cet assassinat, ce qui a été démontré après que pas du tout. Et donc c'est dans ce contexte-là politique que l'association se fait dissoudre. Et sur des bases qui, encore une fois, juridiques ne tiennent pas. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de politique. Et ça, il y a un autre enseignement et la tentative de dissolution des soulèvements de la Terre, par exemple. Où là, on voit bien que la dissolution a été retoquée par le Conseil d'État. Qu'est-ce qui a fait retoquer pourquoi les soulèvements de la Terre, leur dissolution a été retoquée par le Conseil d'État? On fait une analyse un peu de ça. On ne peut pas comprendre le rejet de cette dissolution si on ne comprend pas le mouvement de soutien énorme dont a bénéficié les soulèvements de la Terre à l'époque, avec des dizaines de milliers d'adhésions en fait au mouvement, avec des personnalités politiques qui ont pris la défense. Et donc là, clairement, pour le Conseil d'État, le coût politique était trop grand pour pouvoir avaliser cette dissolution. Et donc là, on voit que c'est très politique en réalité.
Et on voit aussi que les citoyens ont quand même un rôle à jouer et qu'on a un peu de pouvoir.
Exactement. Et donc, dans le cadre du CCIF, il y a eu très peu de soutien à ce moment-là. Donc l'association était un peu esselée et donc la dissolution a pu se mettre en place dans les soulèvements de la Terre. Et donc, voilà, on incite aussi à dire il faut un soutien populaire, il faut un soutien d'autres associations pour éviter que des situations comme ça puissent se reproduire, quoi.
Bon, on va écouter un peu de musique et on continue à parler de ce livre passionnant, L'État contre les associations, anatomie d'un tournant autoritaire. C'est paru aux éditions textuelles. Vous l'avez coécrit Antonio Delfini avec Julien Talpin, qu'on salue. Et ça n'intéresse pas que les gens qui sont dans les associations, quoique tout le monde est dans les associations, en fait.
Bah, quasiment.
Voilà, hein, ouais. c'est vraiment la vie de tout le monde. Je ne connais pas des gens qui ne font pas partie d'une association. On écoute un peu de musique et on se retrouve juste après.
Que triomphe enfin le parti de l'unité. Allons ensemble, marchons pour nos mémoires. Que fleurissent ici-bas nos chants et nos espoirs. Se réfrènent nos lumières, éblouissant la terre. Annonce d'une vie pleine et révolutionnaire.
De pie, luchar, el pueblo va a triunfar. Será de libertad con de... España vencerá.
Vous écoutez toujours Liberté sur Parole sur Cause Commune 93.1. On parle avec Antonio Delfini de L'État contre les associations, anatomie d'un tournant autoritaire. C'est paru aux éditions textuelles et c'est coécrit avec son camarade Julien Talpin. Deux gars du Nord qui nous ont produit ce petit livre. Alors justement, on discute en antenne en écoutant cette belle chanson. Vous me disiez on échangeait nos expériences de répression associative et d'injonction à la répression, parce que non seulement les associations sont réprimées, mais on leur demande de fliquer leurs adhérents ou leurs bénéficiaires, en fait. Et ça vous est arrivé, notamment dans une association que vous connaissez, Antonio.
Oui, donc moi, je fais partie de l'Atelier Populaire d'Urbanisme du Vieux-Lille, donc qui est une association de droit au logement qui accompagne des familles qui rencontrent des problèmes, procédures d'expulsion, habitat insalubre, et donc on les accompagne, en fait, dans leur démarche administrative, notamment là-dessus. Et effectivement, il y a quelques années, on nous a demandé de produire des listes nominatives des personnes accompagnées avec des informations sur pourquoi le dossier de telle personne a été clos. Est-ce que c'est parce que telle personne ne s'est pas rendue au rendez-vous qui était programmé, à avoir des informations sur les bénéficiaires de l'action, et donc de nous faire, nous, un peu rouage un peu de ça, parce que derrière pourrait en découler des coupures d'allocation, voilà, ne pas remplir les contrats qui permettent à ces gens de toucher les minima sociaux. Voilà, et donc ça, c'était des injonctions qui nous étaient faites, et que effectivement, en tant qu'association, il faut aussi avoir un peu le cuir un peu dur pour pouvoir dire à son financeur, à la personne qui vous donne des milliers d'euros pour mettre en place cette activité, parce que là, en l'occurrence, il faut du travail salarié pour accompagner ces gens, parce que c'est très important, c'est un travail qui est assez colossal, pour pouvoir dire non à ces financeurs. Ouais. Et ça, c'est pas évident. Donc effectivement, il y a aussi il y a la relation entre l'État et l'association, et puis il y a aussi l'association en elle-même, un peu ce qu'on lui impose, et encore une fois, dans le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire faire des associations un opérateur de l'État qui doivent remplir exactement les mêmes obligations que l'État, et en s'asseyant sur le fait que les associations loi 1901 ont une autonomie, ont une indépendance, défendent des projets associatifs qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas les mêmes ambitions que des politiques publiques.
Travaillent avec des bénévoles et des gens avec un droit du travail assez basique, en fait. Hein. Les salariés des associations n'ont pas une convention collective très très généreuse, on va dire. Et il y a énormément de bénévoles, donc du travail gratuit. En fait, l'État fait faire son travail par du travail gratuit quelque part, beaucoup.
Exactement, hein. Exactement. Donc le travail des bénévoles qui sont, je ne sais plus, je crois que c'est au nombre de peut-être 20 millions en France.
Il va y en avoir un peu moins, vu qu'on a perdu 2 ans on a gagné 2 ans de travail obligatoire. Exactement. Avec le recul de l'âge de la retraite. Exactement. C'est très important, hein, ça.
Et ça fait partie, effectivement, des quand on met bout à bout, en fait, des réformes qui initialement sont pas réfléchies pour le monde associatif, mais en fait qui viennent mettre clairement des bâtons dans les roues des associations aujourd'hui, donc avec des baisses drastiques de financement sur ces dernières années, des plans d'austérité, donc le dernier n'est pas passé parce que le gouvernement Bérou a chuté, mais...
Il n'est pas encore passé, quoi.
Ouais, c'est ça, on se doute que ça va revenir, et en fait, là, qu'il y aurait des conséquences qui seraient vraiment catastrophiques, en fait, pour le secteur. Les associations, c'est celles qui mettent en place les politiques publiques sur le terrain, souvent. C'est celles qui développent l'éducation populaire, c'est celles qui viennent en aide aux personnes les plus en difficulté. Et donc, c'est ça qu'on vient attaquer directement en impactant les associations. Et donc, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à revivifier un peu le modèle associatif, et à ce que effectivement les personnes qui travaillent, qui sont bénévoles, mais aussi les personnes qui participent se rendent compte, parce que effectivement, on le disait aussi, je pense que on se rend pas compte que les associations sont partout dans notre vie, et dans l'éducation, dans le social, dans la santé, dans le logement, partout on a des associations qui mettent en place des politiques publiques qui sont primordiales, en fait, aujourd'hui. Et donc je pense qu'on s'en rend pas bien compte, parce que on connaît pas le modèle juridique qu'il y a derrière les structures qu'on rencontre, mais si le monde associatif s'écroule, je veux dire, on est sérieusement impacté dans la vie de tous les jours.
Il y a cette injonction de contrôle que vous évoquiez sur votre association qui touche le logement, ça touche beaucoup, bien sûr, les associations qui s'occupent des personnes les plus défavorisées, les plus fragilisées, ça touche les gens qui n'ont pas d'emploi, qui passent par France Travail, qui les envoie vers des associations qui sont obligées maintenant d'être sur une plateforme qui s'appelle Dora et de faire du contrôle social. Voilà, ce contrôle social, il est vraiment délégué aussi aux associations, et ça crée un brouillage entre les associations qui avaient quand même ce côté démocratique, populaire, ouvert, un peu libre, un peu basé sur la libre adhésion, le volontariat, le bénévolat. Tout ça, c'était de la cohésion sociale informelle. De plus en plus, j'ai peur, moi, que ça donne une mauvaise image des associations qui pourraient être associées à du flicage, à du contrôle social, à du triage, etc., qui n'est pas leur vocation première, en fait. Enfin, qui est même à l'inverse de leur vocation première.
Bah oui, c'est ça, leur faire perdre leur indépendance et les transformer en rouage, en fait,
Et cet outil démocratique qui était vu comme tel, qui est le premier pas hein, de l'engagement, peut-être, pour beaucoup. Beaucoup de gens arrivent à la retraite, ils sont encore en pleine forme, surtout quand c'était à 60 ans, mais on verra à 64. Mais en l'occurrence, c'était un peu le réflexe qu'on avait d'aller se tourner vers une association en faisant bénéficier de ses compétences, en montant en compétences, parce que l'engagement associatif, c'est aussi un gros enjeu de monter en compétences pour des gens qui ont fait des boulots où on leur demandait pas beaucoup de faire appel parfois à des qualités organisationnelles ou des qualités de gestionnaire ou des qualités même de mobilisation d'équipe, etc. et qui se retrouvent tout à fait capables de le faire dans le monde associatif. C'est-à-dire que voilà, on peut aussi apprendre, c'est de l'éducation populaire par la participation. Donc c'est des outils formidables qu'on essaye de dénaturer. Et j'en viens à la mobilisation du 11 que vous avez évoqué, Antonio Delfini. C'est, je crois, la première fois qu'on va avoir une grève des associations, une mobilisation des associations.
Ouais, je pense que l'appel lancé, il est à la hauteur en réalité de la situation actuelle. Et donc voilà, le 11 octobre, il y a appel à rassemblement un peu partout dans toutes les villes de France. Donc c'est parti du mouvement associatif qui est un peu la plus grosse structure un peu de représentation un peu du monde associatif qui représente 700 000 assos sur 1,5 million et qui là tire la sonnette d'alarme, qui a vu des retours en fait du terrain. Revenir en indiquant que effectivement les deux dynamiques qu'on mentionnait tout à l'heure, baisse des financements drastiques, transformation un peu de tout le travail associatif, notamment avec la mise en place de ces appels à projets et donc le temps qui est donné en fait à des contraintes administratives de plus en plus dures, et de l'autre côté une impossibilité aux associations de faire entendre leur voix si jamais elles ne sont pas dans la droite ligne de leurs financeurs. Donc c'est un peu avec ces deux constats-là.
Puis
que
aussi
le 11 octobre
le grand plan de licenciement silencieux, parce qu'une asso, on licencie le salarié ou les deux salariés, et du coup ça fait pas une grosse manif de la CGT comme quand on licencie les gens d'ArcelorMittal, mais néanmoins mis bout à bout, c'est énorme en fait, parce que ces baisses de financement généralisées là, quand on a vu les coupes dans la culture, on voit les coupes dans la santé, enfin le planning familial est attaqué, enfin je veux dire c'est assez dingue hein, de voir les secteurs qui sont impactés, c'est juste de la folie. Le soutien scolaire est attaqué, enfin vraiment les tout, et donc ça fait beaucoup de personnes qui vont se retrouver sur le carreau.
Exactement. Donc alors après, la difficulté aussi du modèle associatif, c'est que on a une grande diversité d'associations, avec des petites associations qui ont juste un ou deux salariés qui interviennent au niveau local, et puis de l'autre côté des associations beaucoup plus importantes.
Des grosses structures
et donc,
qui sont plus vraiment des associations d'ailleurs.
C'est ça. Et donc il faut réussir à pouvoir rassembler cette diversité derrière un même mot d'ordre. Mais oui, par exemple sur les questions des associations de défense des droits des femmes. Là, il y a une alerte qui a été lancée il y a peu de temps. Ces baisses de financement et cette situation, en fait, elle va se traduire très concrètement par des fermetures de centres d'accueil de femmes qui peuvent connaître des violences, la fermeture de permanences d'accueil. Et donc, tout ça, en fait, a un coût matériel très concret, quoi.
Et va avoir de toute façon un coût économique, parce que, enfin, je veux dire, ça suffit de ne pas évaluer le coût de la précarité, le coût de du non-accès aux soins, le coût des violences intrafamiliales, enfin tout ça, ça a un coût, y compris économique, je suis désolée de le dire comme ça, ouais, mais sûr. À un moment, c'est un très mauvais calcul, c'est un calcul de très court terme.
Exactement, c'est ce sur quoi incite à juste titre le mouvement associatif, c'est-à-dire même en gardant cette rationalité économique permanente et en ne regardant que ça, en fait, on va droit dans le mur derrière, parce que ça veut dire que ça va faire exploser la précarité, la vulnérabilité, et qu'il va falloir derrière entraîner des coûts beaucoup plus importants pour essayer de pallier un peu aux conséquences de ces choix-là. Là. Mmh.
Bon, si on se quittait sur une injonction positive, mais bon, c'est vrai que c'est important, je crois, ce qu'on a dit, c'est une grande diversité, le monde associatif. Parlons aux gens du club de pétanque à côté, quand on fait de l'éducation populaire, ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mauvais moyen d'être ensemble, et il n'y a pas de mauvais moyen de... parlons même aux associations de chasseurs, allons-y, parlons à tout le monde.
Non, mais alors, vraiment, le bouquin, en fait, essaye de ne pas tomber justement dans cette sinistreuse, c'est-à-dire une grande partie du livre est consacrée effectivement à montrer cette répression qui est en route, mais on a aussi tenté ces dernières années en fait de construire les outils de la défense et de la riposte, c'est-à-dire que les associations qui sont directement attaquées peuvent faire appel à l'Observatoire des libertés associatives qui les mettra en lien avec des personnes qui organisent leur défense juridique, médiatique, et les solidarités à les trouver avec les associations. Et il y a plein d'exemples, en fait, hein, d'associations qui se font attaquer, qui trouvent des soutiens au niveau local ou au niveau du secteur d'intervention dans lesquels elles sont, et qui arrivent à rétablir un rapport de force avec l'institution. Et puis après, la dernière partie du livre aussi met en évidence, en fait, des propositions pour riposter et aller plus loin, qui puissent permettre, en fait, de mieux entendre la voix des associations. Et on y travaille, en fait, avec des collectivités locales. Il y a des villes, il y a des métropoles qui sont OK pour travailler un peu sur ces choses. Là, des fonds d'interpellation citoyenne, on donnerait de l'argent à des associations pour justement jouer ce rôle démocratique de faire émerger une parole de la base et la mettre dans la discussion publique.
Vous voulez dire des conventions citoyennes, ce genre de choses?
Des référendums d'initiative citoyenne où on puisse mettre en place, voilà, une démocratie directe.
Qui aurait un effet dont les décisions seraient prises en compte par le pouvoir.
Et alors, très souvent, c'est effectivement des revendications qui sont portées de manière historique un peu, ouais, par les associations. Mais donc qui ont déjà été élaborées, sur lesquelles il y a eu vraiment un vrai travail. Il y a eu un travail contradictoire pour essayer de pousser, de voir comment ça pourrait rentrer de manière opérationnelle. Et donc des échanges aussi avec des élus pour essayer de travailler là-dessus. Donc voilà, pas de sinistrose, c'est vrai que ça attaque beaucoup en face, et en même temps, nous on a des propositions, on a des projets,
on est nombreux.
Et aussi, s'il y a autant de répression, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'associations qui font plein de choses. Et ça, c'est vrai qu'en creux, on peut lire ce livre aussi un peu comme ça, en disant si toutes ces répressions sont illustrées ici, et nous c'était vraiment avec Julien à la fin du bouquin ce truc-là, c'est dire quand même, on parle d'une trentaine d'associations qui réalisent des choses qui sont quand même assez remarquables, et on sait qu'il y en a beaucoup plus de toute façon. Et donc voilà, on a un tissu associatif qui est encore très vivant, qui est attaqué, mais qui est encore très vivant, et donc voilà, faisons solidarité avec eux le 11 octobre notamment, et puis après de manière plus large au quotidien.
Merci beaucoup Antonio Delfini. Avec Julien Talpin, vous avez écrit ce livre aux éditions textuelles L'État contre les associations, anatomie d'un tournant autoritaire. Merci à Gilles Brézard qui réalisait cette émission. On va se quitter en musique avec ce que veut Gilles, ou alors on va directement laisser la place à Jérôme Sorel qui va nous parler d'un rayon libre de vélo avec quelqu'un, je crois, qui est allé se balader à vélo dans toute la France pour bien manger.
Cause commune. cause-commune.fm